Dégenrer, l'émission pour déranger.
Une émission féministe, les 2e et 4e mercredis du mois,
de 18h30 à 20h,
sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
Parce que mon mari il me mettait toujours enceinte et il m'aidait à avorter en fait. Il payait quelqu'un pour me faire avorter parce que lui les enfants ça l'intéressait pas. J'en avais déjà 3 et en fait en 4 ans j'ai avorté 8 fois par la sonde, une bonne femme qui venait mettre la sonde. J'attendais que ça saigne, j'allais à la clinique, j'avais un curetage, enfin bref, j'ai jamais fait un avortement spontané, hein. Ça, c'est clair. Et malheureusement, j'avais encore tellement fait d'une façon que j'attrapais tout le temps. Tous les 4 mois, tous les 5 mois, j'étais enceinte. C'était pas le médecin ne voulait pas me donner la pilule parce que j'avais des varices. La pilule, à ce moment-là, était fortement dosée. Il me disait, ouais, vous allez avoir des trucs au cœur, vous allez avoir des énormes varices. Moi, je ne peux pas vous la... Voilà, il ne voulait pas me la donner. J'étais à moitié morte, mais je ne tenais plus debout, j'étais maigre comme un clou. Mais bon, ça c'est importé peu. J'étais à la maison, je ne travaillais pas à ce moment-là. J'avais mes 3 mômes à élever, je les élevais. Voilà, mon mari ne voulait pas que j'aille travailler non plus. Donc, au niveau santé, c'était très dur à ce moment-là. Mais la dernière fois, donc la 8e fois, le médecin m'a dit, écoutez, il faut vraiment faire quelque chose, vous allez vous retrouver morte dans un coin, vous. Et puis, j'ai dit, ben alors, qu'est-ce que vous me proposez, puisque vous ne voulez pas que je prenne la pilule? Il m'a dit, ben, il y a une ligature de trompe, je n'avais pas 30 ans. Alors, il me dit, mais il faut l'accord de votre mari. J'ai dit, attendez, c'est lui qui me met enceinte, c'est lui qui me fait avorter. Alors, de toute façon, moi, je veux bien une ligature de trompe. J'ai déjà 3 mômes, j'en veux plus, c'est clair. Puis je sortais d'une famille, on était 13 chez nous, 13 frères et sœurs. Voilà, donc hop, il a signé le papier. Et puis la dernière fois où on m'a fait le curetage, c'était le 1er mai, en fait, non, c'était le 30 avril 68. Je me rappelle bien parce que j'ai passé mon mai 68 à l'hôpital et on m'a fait la ligature de trompe. Il voyait bien que tous les 3 ou 4 mois ou tous les 5 mois il me voyait arriver dans un état épouvantable, mais il aurait fallu que je fasse plus l'amour avec mon mari, mais lui il n'était pas question de ça, hein. Voilà, mon mari ne voulait pas prendre le préservatif, hein, ça il n'en était pas question. Et puis le retrait, c'était pas son truc. Alors, mes derniers frères, ça fait partie de la méthode Ogino. Alors, moi, j'y croyais pas, en fait. Hein. Et puis, j'étais complètement ignare là-dessus. Que lui, quand il voulait faire l'amour, c'était je fais l'amour, je veux faire l'amour. Alors, il n'était pas question que je calcule les jours, hein, ni que je lui dise non, pendant ces 10 jours-là, je peux pas. C'était comme ça. Moi, j'aurais aimé prendre la pilule, mais le docteur ne voulait pas me la donner. Voilà. Déjà, ça n'allait pas très bien avec mon mari, hein, parce que moi, j'y en voulais hein, quand même, parce que à chaque fois, je sentais que j'y laissais ma peau. Mais comme c'était une grande gueule, moi, qui ai une grande tchatche, je me la fermais avec lui, j'avais rien à dire, voilà. Je disais rien, mais j'en pensais pas moins. Je disais un jour, je m'en irai, un jour, je m'en irai, un jour, je m'en irai. Et puis donc, après ma ligature de trompe, je me suis sentie libérée. C'est terrible d'avoir à se blesser le corps pour se sentir libérée, mais je me sentais libérée. Et c'est comme ça qu'on s'est engueulé pendant 6 mois, puis je me suis cassée. Mais ça date quand même, c'était dans les années 60, donc ça fait 40 ans maintenant. Hein.
Dans les cités, les bidonvilles, le pape bénit la pauvreté. Ça passe le temps, ça tient tranquille, ceux qui n'ont plus rien à becter. Et puis le très Saint-Père a dit, faut faire des gosses, même ses repos. Ils iront vite au paradis, de son ici, qui n'ont plus rien à becter. Et puis le très Saint-Père a dit, faut faire des gosses, même ses repos. Ils iront vite au paradis, de son ici, y a pas de boulot. Oh dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait, si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. Partout on crève, mais c'est une chance, et puis faut bien se faire une raison. Au moins ça limite les naissances, sans cette damnée contraception. Bien sûr les viols font une moyenne, faut se résigner, surtout rien dire. Que naissent les gosses de la haine, pourvu qu'ils soient faits sans plaisir. Oh dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait, si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. On parle de vice et de péché, et on excise des gamines, pourvu qu'il y ait frigidité. On peut pas dire que ce soit un crime, faut pas croire que ce soit de l'esclavage, puisqu'elles ont le droit de prier Dieu. Dans les liens sacrés du mariage, ça fait mal qu'elles ferment les yeux. Dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. Faire des mômes, c'est pas un loisir, faut que les mères pondent sans conviction. Mais si elles peuvent pas les nourrir, c'est plus prévu par la religion. De toute façon, elles n'ont qu'à se laisser faire et se soumettre au testament. Se montrer dignes de leurs ovaires et se laisser engraisser sagement. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. Ceux qui ont de la moralité montent des gangs, des commandos, pour faire naître ceux qu'ils vont taxer, plus tard d'être des enfants de salauds. Les bien-pensants, les bonnes chrétiennes vont s'occuper de ces petites garces, le temps qu'éclosent leurs mauvaises graines, qu'on oublie après à la das. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. Ils se protègent sous leur tonsure et revendiquent leur petite calotte. Sans doute pour eux que c'est plus sûr que de nous laisser mettre des capotes. Pas la peine d'avoir son certif pour nous faire docilement gober. Satan et ses repositifs, comme tous ceux qui l'ont bien cherché. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. Le seul virus qui soit bien vu, c'est l'église, c'est la religion. Fais gaffe à toi si tu l'as plus, on ne pardonne mal ta guérison. Ces malades-là sont sanctifiés, au ciel y a plus de phase terminale. Et martyr, c'est bien mieux payé que travailler seul à l'hôpital. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. Hey. Dis monsieur, je te crois pas, t'oublies qu'aujourd'hui c'est dimanche. Et jamais la Vierge n'avortera, on appelle sainte par faiseuse d'or.
Donc, vous êtes sur Dégenré, l'émission féministe sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Alors, vous avez entendu un témoignage et après une chanson qui était une chanson d'Agnès Bille qui s'appelle L'Enceinte Vierge. Et alors, avec les deux, peut-être vous avez compris que ce soir, on va parler d'IVG, d'avortement. Alors, on a apprécié ce témoignage en premier parce que donc c'est un témoignage qui date des... Enfin, où la femme parle des avortements qu'elle a eus dans les années 60. Et donc maintenant, à l'époque où l'avortement était illégal, était interdit, donc maintenant c'est autorisé, il y a une loi qui l'autorise, et on va en parler plus tard. Mais on avait envie de passer ce témoignage-là parce que justement, il a un sens, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que les femmes avortaient, pour avorter devaient le faire dans la clandestinité. Et que c'était un peu pour donner le ton de cette émission, parce que donc on va parler d'IVG, on va parler d'avortement, mais c'est pas pour discuter du bien fondé ou non de l'avortement. On part du principe que des avortements, il y en a, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours, que ce soit autorisé ou non. Et on va plutôt essayer de discuter ce soir. Donc déjà, on va parler des différentes méthodes, de comment ça se passe un avortement maintenant en France et ailleurs. On va aussi discuter plus largement, essayer d'élargir un peu le débat, justement en parlant de toute la morale, de toute la culpabilisation qu'il y a autour de cet acte-là, qui n'est pas encore un acte anodin. Enfin, on parlera de tout ça tout au long de l'émission. Voilà.
Et donc, pour cette émission, nous sommes là, Marina, Inga et Amelia, la technique. Et aussi, nous avons deux invités qui ont aussi préparé l'émission avec nous. C'est Christelle et Rachel du planning familial de Grenoble. Et en fait, le témoignage que vous venez d'entendre, et il y en aura d'autres le long de l'émission, ils sont extraits d'un CD qui s'appelle Avortement, contraception, grossesse non prévue. Et c'est en fait un CD qui va inciter en fait à des débats sur l'avortement. Et ce CD a été produit par les associations Tiresias à Marseille et vis-à-vis une association de Lyon. Voilà.
Et donc on va peut-être commencer par parler de la législation actuelle en France. Donc je ne sais pas, Christelle.
Bonjour. Par rapport à la législation, il y a déjà la loi Veil, donc qui date de 75. Et donc qui autorise l'avortement, qui jusqu'à 10 semaines de grossesse. Il y a eu, peut-être on ne va pas trop s'attarder sur cette loi, peut-être juste dire que peut-être ça a quand même pas mal médicalisé l'acte d'avortement, et que du coup malgré tout il y avait un contrôle du corps des femmes par le pouvoir médical. Donc voilà, je pense qu'on y reviendra un peu. Dire au niveau de la loi qu'il y a eu en 2001 des avancées, notamment au niveau du délai légal pour avorter en France, donc jusqu'à 12 semaines de grossesse. Dire aussi que pour les femmes majeures qui souhaitent avorter, qu'il n'y a plus d'obligation de ce qu'on appelait un peu l'entretien social. Donc voilà, ça veut dire que si elles souhaitent parler de cet acte à quelqu'un, être reçues par quelqu'un, elles peuvent, ça leur est proposé, mais en tout cas, il n'y a plus d'obligation. Voilà, on considère enfin qu'elles sont assez grandes pour choisir toute seule. Après, il y a un autre changement qui concerne les mineurs. Jusqu'en 2001, les mineurs qui n'avaient pas l'autorisation parentale ne pouvaient pas avorter. Et un des grands changements en 2001, c'est que les mineurs peuvent avorter sans forcément en passer par l'autorisation parentale. Par contre, il faut qu'elles soient accompagnées par une personne majeure. Donc, c'est elles qui choisissent la personne aussi qui les accompagne. Donc, ça peut être un travailleur social, ça peut être quelqu'un d'autre de la famille, ça peut être le copain, enfin voilà, une amie, voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi qui est important? C'est entre le premier rendez-vous avec le médecin et l'acte d'IVG, il y a un délai de réflexion qui est de 8 jours dans la loi. Et en fait, il a été ramené à 2 jours dans les cas où les femmes sont proches du délai légal pour avorter. C'est vrai que c'est quelque chose qui, des fois, ne s'applique pas forcément dans tous les centres IVG. Enfin, voilà. On en reparlera après sur les dysfonctionnements, sur les problèmes d'application de la loi. Il y a, en 2001 aussi, dans la loi, il y avait plein de choses autour de l'avortement médicamenteux hors hôpital. Ça veut dire qu'on va voir son médecin généraliste ou son gynéco pour pouvoir avorter. Par contre, ça a mis très longtemps à pouvoir se mettre en place parce que ce n'est pas encore tout à fait en place. Les décrets d'application viennent de sortir cet été. Donc voilà, là, ça se met en place. Que dire aussi, avec 2001, il y a l'interruption médicale de grossesse qui est autorisée en cas de péril grave pour la femme ou si l'enfant à naître est atteint d'une affection qui est incurable. Donc, là, pour l'attestation d'interruption médicale de grossesse, donc qui peut se faire après les 12 semaines de délai légal, il faut l'attestation qui est délivrée par deux médecins. Et il peut y avoir aussi un médecin choisi par la femme qui participe à cette concertation. Voilà, donc ça permettrait aussi en France de pouvoir accéder à l'avortement au-delà des 12 semaines de grossesse légale, quoi. Mais c'est pas encore... ça fonctionne pas encore, voilà.
Et pour un cas comme ça, donc une interruption médicale de grossesse, il y a quand même une limite dans le temps
Non, il n'y a pas de limite. Ouais. Et quoi dire qui est important aussi, dans la loi, il y a quand même quelque chose qui reste, qui est que le médecin peut refuser de pratiquer une IVG. Il y a une clause de conscience, mais par contre, il a obligation de réorienter la femme, enfin en tout cas de lui donner toutes les infos pour qu'elle puisse accéder à l'IVG. Voilà. En gros, après, peut-être qu'on peut amorcer les méthodes ou...
Ouais, peut-être on peut parler un peu juste dans d'autres pays en Europe, les législations, notamment sur les délais, sont un peu différentes. Et donc, il me semble aux Pays-Bas, le délai légal pour avorter, c'est 22 semaines.
En fait, c'est 24 semaines de grossesse pour pouvoir avorter aux Pays-Bas.
Donc, c'est le double.
Ouais. Donc voilà, ça varie vraiment d'un pays à un autre. Il y a des pays en Europe où c'est encore interdit, comme en Pologne, en Irlande.
Au Portugal voilà. Aussi, je
Portugal,
crois.
Portugal, ouais, et à Malte. Enfin, voilà.
et donc, on tout à l'heure, tu parlais de l'avortement médicamenteux. Mmh. Peut-être on peut expliquer les différentes méthodes qui existent. Et parce que c'est aussi les délais sont différents.
Ouais. Alors pour la méthode médicamenteuse, c'est jusqu'à 5 semaines de grossesse. Et la deuxième méthode, c'est la méthode par aspiration, donc jusqu'à 12 semaines de grossesse. Donc pour la méthode médicamenteuse, il y a plusieurs rendez-vous. C'est l'avortement se passe par prise de médicaments. En fait, une première prise de médicaments où c'est plus un blocage des hormones qui permettent que la grossesse se poursuive. Et puis, ça provoque aussi des contractions au niveau de l'utérus, une ouverture au niveau du col de l'utérus pour qu'il y ait expulsion du fœtus. Normalement, c'est vrai qu'on donne... Il y a une deuxième étape aussi où on donne un autre médicament pour augmenter les contractions de l'utérus, donc qui se passe à peu près 48 heures après cette première prise de médicament. Et c'est vrai que ça peut être douloureux. Il existe des médicaments, des antalgiques pour réduire la douleur. Et c'est vrai que dans tous les hôpitaux, on ne les utilise pas forcément. Donc il y a toujours encore cette idée de peut-être que...
faut que ça fasse mal.
Ouais, il y a quelque chose encore de cet ordre qui peut rester, quoi. Donc voilà.
Et la méthode par aspiration, ça consiste
En fait, du coup, c'est que ce soit la méthode médicamenteuse ou par aspiration, en fait, ça nécessite une hospitalisation en fait très brève de quelques heures. Et la méthode par aspiration, ça dure 10 minutes. C'est on introduit une canule dans l'utérus qui est rattachée à un système d'aspiration et on aspire en fait ce qu'il y a dans l'utérus. Et voilà, ça dure 10 minutes. Après, on garde les personnes pendant quelques heures au centre d'IVG. Et voilà, enfin,
ouais. Ouais, et cette intervention se fait avec une anesthésie. Et en fait, avec une anesthésie soit locale, soit une anesthésie générale. Et normalement, ça devrait être un choix de la femme concernée, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Parfois, les centres d'IVG ou les hôpitaux, les médecins, ils imposent en fait soit l'un, soit l'autre, leur manière de faire en fait. Alors que c'est peut-être un choix qui devrait vraiment revenir à la personne qui va subir, à qui on va faire cet avortement, quoi.
Est-ce que peut-être on pourrait plus parler précisément de la procédure, comment ça se passe si une femme veut avorter?
Ben, y a, Il y a deux rendez-vous, deux consultations médicales avant l'interruption volontaire de grossesse, et donc pour les majeurs et aussi pour les mineurs. Pour les mineurs, ce qui en plus c'est l'obligation d'avoir ce qu'on appelle encore consultation entretien ou entretien social. Voilà. Et, après, voilà, ces consultations médicales, c'est l'occasion de discuter, de présenter les méthodes. Et de faire que la femme puisse choisir quelle méthode elle souhaite. Voilà, enfin, c'est pas...
Et ça, c'est par exemple aussi un cas, genre une femme qui voudrait avorter, elle peut s'adresser par exemple au planning familial.
Oui, elle peut complètement, soit... s'adresser au planning familial, soit contacter directement aussi des centres IVG. Il y a aussi une téléphonique complètement dédiée à l'information autour de tout ce qui est centre IVG. Donc je peux donner le numéro. Donc cette ligne téléphonique, c'est le 0810 810 714. Et peut-être donner le numéro de téléphone du planning familial de Grenoble, qui est le 04 76 87 94 61. Donc voilà. Peut-être donner aussi une information par rapport aux personnes qui ont dépassé les délais légaux et qui souhaitent avorter, qui a possibilité de contacter le planning familial à Grenoble. Voilà.
Et donc, le planning à Grenoble, il se trouve bien 30 boulevard Gambetta. Voilà. C'est rappeler l'adresse, parce que c'est aussi possible d'y aller. On peut peut-être faire une petite pause musicale et... Et donc on va écouter un morceau de Bams qui s'appelle « Douleur de femme ».
À l'aube de l'an 2000, dépression, déconsidération, IVG, femme que l'on bat, viol, agression. Ma seule et unique compensation est que je suis née femme et vous m'enterrerez femme. L'homme devra le devenir dans son âme. Si je rassemble, unis l'ensemble des femmes, n'est ni un geste, ni une cause féministe. Y'a juste un sentiment de devoir humaniste. Surexposé, je fais mes thèses bien exposées. Si tout ceci te semble trop cliché, derrière chaque cliché, n'y a-t-il pas une part de vérité cachée? Surexposé, je fais mes thèses bien exposées. Une fois pensée, j'ai juste à les poser. Si tout ceci te semble trop cliché, derrière chaque cliché, n'y a-t-il pas une part de vérité cachée? Surexposé, je fais mes thèses bien exposées.
C'est la seule fois où j'ai avorté. J'ai avorté par la pilule RU. Et ça a été une mauvaise expérience, très très mauvaise expérience. Parce que pendant 15 jours, j'étais très malade. J'ai fait que saigner. Et j'ai regretté en fait de ne pas avoir fait comme beaucoup de copines de l'époque qui m'avaient dit, nous on s'est fait aspirer. Et j'ai pas compris pourquoi le médecin m'avait prescrit cette pilule abortive. Il m'avait plus ou moins orientée. Il ne m'avait pas demandé mon avis. Il m'avait dit, on va faire ça, tu vas voir, ça va être bien, ça se passe par cachet. Même il m'avait mis ça comme un peu, il m'avait vendu le produit. Hein. C'est un peu la pub. C'est mieux qu'à la limite se faire aspirer. Il m'avait dit, il m'avait fait comprendre, ça y est, ça me revient, que le fait d'avorter soi-même, psychologiquement, c'était mieux. Parce qu'on voyait le fœtus, enfin le petit bout de... Je vais être crue, mais c'était un petit bout de... Ouais, un gros caillot. Et le fait qu'on voie le caillot qui tombe, enfin, soi-disant, psychologiquement, c'était mieux d'avorter soi-même. Il paraît que d'avorter... Enfin, ce qu'il m'avait fait comprendre, c'est que d'avorter par l'aspiration, c'est quelque part, t'es endormi... Et tu ne te rends pas vraiment compte de, soi-disant, de l'avortement. Mais moi, après, en discutant avec des copines, je me suis rendu compte qu'elles avaient mieux vécu que moi. Elles avaient moins souffert.
L'acte en tant que tel, ça s'est super bien passé. Enfin, bon, moi, j'ai demandé une anesthésie générale parce que j'ai eu le choix. Ça s'est bien passé. Je trouvais que l'équipe était super accueillante. C'est passé avec beaucoup de douceur, il n'y avait pas d'espèce de regard, d'espèce de morale qui plane au-dessus, etc. Non, pas du tout, pas du tout. Et en même temps, ce n'était pas non plus l'usine, ce n'était pas l'extrême inverse, c'est-à-dire je n'étais pas une parmi tant d'autres qu'on avortait sur la liste des nombreux avortements. Quoi. C'était assez neutre, ce n'était pas dans l'indifférence. Donc de ce point de vue-là, c'était plutôt bien. C'est-à-dire des gens qui sont là, qui savent ce qu'ils font, qui n'en rajoute pas. C'était juste entre deux, c'est-à-dire qu'on s'occupait de moi en tant que personne qui vient de faire un acte qui n'est pas facile à gérer, mais on n'en rajoute pas non plus dans le côté on vous aide, etc. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une forme de légèreté, enfin, neutralité, enfin voilà, cette forme de neutralité me plaisait bien. C'est-à-dire qu'on me laissait aussi responsable de mon truc, on me laissait être dans mon histoire, quoi.
J'aurais voulu qu'on m'explique vraiment chronologiquement comment ça allait se passer. Et j'ai pas réussi à avoir les réponses. J'avais plutôt l'impression que c'était quelque chose de bénin comme intervention, et puis en fait ça l'était pas. Alors quand j'ai été voir la gynécologue et qu'elle m'a parlé de l'anesthésie, je lui ai demandé si c'était local ou général, et elle m'a dit qu'elle refusait de faire les avortements si la personne n'était pas tout à fait endormie. Donc la question s'est pas posée du fait qu'elle fonctionnait comme ça. Je pense que j'aurais pas aimé assister à l'avortement, tout simplement parce que j'aime pas saigner, j'aime pas... les petits accidents que j'ai eus où je saignais, je l'ai toujours assez mal vécu, hein. Je suis un peu sensible par rapport à ça. Donc. Par contre, j'aurais quand même voulu pouvoir me représenter l'avortement. Et que j'aurais préféré que ça se fasse avant. C'est-à-dire qu'au moment de me réveiller, je sache exactement ce qui s'était passé.
Donc là, dans les trois petits témoignages qu'on vient d'écouter, on voit que c'est pas encore tout gagné, hein, qu'on n'a pas encore tout se passe pas merveilleusement bien pour avorter. Et à ça, il y a plein de raisons, je pense, dont on va discuter. Mais toi, Rachel, tu as participé à une enquête sur un peu les dysfonctionnements d'application de toutes les lois dont on a parlé plus tôt. Et qu'est-ce qui apparaît dans cette enquête par rapport à...
Oui, en fait, j'ai dépouillé une enquête qui a été menée donc sur la région Rhône-Alpes auprès de 30 établissements qui pratiquent des IVG. Et il ressort de cette enquête beaucoup de choses. Donc c'était une enquête qui a été menée auprès de tous les personnels des centres d'IVG, donc que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, les assistantes sociales et les secrétaires. Donc il en ressort un manque de personnel, aussi bien en médecin, en infirmière, en aide-soignante. Et il n'y a pas de remplacement du personnel pendant les congés. Donc l'été, c'est un peu le parcours du combattant pour pouvoir avoir une IVG dans les délais. Parfois, les femmes sont obligées de changer de département. Voilà. Des fois, il y a jusqu'à... 5-6 semaines d'attente pour avoir une IVG. Et puis, il ressort aussi de cette enquête le personnel se sent un regard négatif porté sur l'activité IVG au sein de l'hôpital. Il y avait donc dans cette enquête des questions ouvertes où les gens pouvaient s'exprimer librement. Et il y en a qui disent carrément qu'ils sentent leur service montré du doigt. Ils trouvent que le travail est dévalorisé, ou alors c'est qu'on veut carrément pas entendre parler de ce service dans l'hôpital. Il ressort aussi le problème de la faible rémunération du personnel, notamment des médecins. Il est difficile de trouver des médecins qui soient sensibilisés à l'IVG aujourd'hui, de plus en plus. Et un manque de formation aussi sur la prise en charge des IVG. Il n'y a pas de travail d'équipe, manque de travail d'équipe. Souvent les IVG se passent au sein d'un autre service, donc souvent gynéco-obstétrique, parfois maternité. Donc les femmes ont un premier rendez-vous, par exemple pour l'échographie, dans un endroit. Après, c'est une autre personne encore qui les reçoit, c'est encore une autre personne qui fait l'IVG. Donc il n'y a pas vraiment de suivi des femmes. Et voilà, moi en dépouillant cette enquête, je me suis rendu compte que les personnes qui travaillaient dans les services IVG se sentaient vraiment isolées et se sentaient assez isolées, assez montrées du doigt, assez mal à l'aise par rapport au reste de l'hôpital. Donc c'est vrai que dans ces conditions, on peut se demander comment une IVG peut bien se passer. Alors on avait aussi à Grenoble le CMSF qui avait beaucoup travaillé sur la question, et donc c'était une même équipe avec beaucoup de personnel qui avait fait le choix de travailler dans ce lieu-là. Donc le CMSF, c'est le centre médico-social de la femme, donc où se pratiquaient la plupart des IVG de l'agglomération. C'est un centre assez important. Et donc où il y avait une unité de lieu et une unité d'équipe. Donc la personne qui recevait la femme pour le premier entretien, le médecin qui la voyait, ça serait lui qui lui ferait l'IVG. Il y avait une certaine qualité d'accueil. Et en fait, donc ce service a été éclaté récemment. Là, ça a été une bagarre sur Grenoble. Et à terme, on a assez peur pour le CMSF. Le projet, c'est de l'intégrer à l'hôpital couple enfant, qui va être une sorte d'immense maternité, une très grosse maternité où se feront tous les accouchements une grosse grosse partie des accouchements de l'Isère.
Ouais, alors que c'est un peu hallucinant de vouloir intégrer un centre IVG dans une maternité, ce qui a à peu près rien à voir, et ce qui est vraiment ce truc de renvoyer toujours les femmes qui avortent sur mais regardez, il y en a d'autres qui elles font des gamins et vous les tuez. Enfin, je sais pas, mais moi je trouve que c'est vraiment assez complètement en décalage en fait. Et
et pas anodin en fait comme décision quoi.
Tout à fait. Et d'ailleurs il y a aussi Bourgoin, et ça c'est ressorti dans l'enquête. Donc à Bourgoin par exemple, il y a eu aussi des problèmes récemment. Donc le planning a été évincé. Avant il y avait le planning qui accueillait les plannings de Bourgoin qui accueillaient les femmes. Il a été évincé de l'hôpital et maintenant les délais sont beaucoup plus longs. Et ça se passe au sein de la maternité. Il n'y a pas de ligne téléphonique dédiée et il y a beaucoup de centres où il n'y a pas de ligne téléphonique dédiée, ce qui fait que quand une femme appelle, elle entend le « allô maternité ». Et on ne sait pas que il n'y a pas de ligne dédiée, ce qui fait qu'on ne sait pas que quand la personne appelle, que c'est pour une demande d'IVG. Donc elle est reçue comme si c'était pour un accouchement. Ou pour. C'est bien, on voit bien qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de réelle volonté de faire que l'IVG se passe mieux et que ça devienne... que ça soit moins culpabilisé.
Ouais, alors ça c'est vraiment là, justement, en fait, là, en janvier, fêtait, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'était le 30e anniversaire de la loi Veil, qui donc était la première à autoriser l'avortement dans certaines conditions. Et en fait, effectivement, c'est un grand acquis quand on entend le témoignage de la femme tout au début des années 60. Je pense à un moment donné, d'avoir une loi comme ça, c'est déjà une avancée. Mais en même temps, quand on voit là ce que, déjà juste dans, je sais pas, une demi-heure d'émission, on arrive à rassembler comme dysfonctionnement, comme mauvaise volonté... et tout, c'est vraiment, enfin, la lutte, elle est pas du tout finie, et surtout aussi en comparaison avec des délais dans d'autres pays par exemple ou quoi, enfin c'est vraiment cette question, c'est toujours une loi restrictive en fait qui c'est pas du tout l'avortement libre et gratuit dans n'importe quelle condition, et c'est le choix des femmes. Et donc voilà, à l'occasion quand même de cet anniversaire, il y a eu des mobilisations dans différentes villes. Il y a eu une manif nationale à Paris. Je sais pas, Christelle, toi tu étais, peut-être tu peux dire quelques phrases en fait.
Ouais, juste dire que du coup, cette manif c'était le samedi 17 janvier. C'était donc une manifestation nationale. C'est vrai qu'il y avait entre 6 000 et 12 000 personnes. Et c'est vrai qu'on peut dire que ça reste très peu. En fait, après c'est un avis personnel, je trouve que la mobilisation a été faible par rapport à ce droit-là, parce qu'on voit bien avec ce que Rachel présentait sur les dysfonctionnements que c'est vraiment pas un acquis. Et moi j'avais aussi envie de revenir un peu sur les témoignages par rapport aux méthodes d'IVG. Il y a une chose qui est très importante pour les femmes, je pense qu'il faut vraiment que, si le médecin ne prend pas le temps de leur expliquer les différentes méthodes, il faut vraiment que le médecin prenne le temps d'expliquer les différentes méthodes, et notamment que par l'IVG médicamenteuse, en effet, il y a des saignements. Mais le fait de vivre bien ou pas l'IVG, c'est déjà... pour telle personne, ce sera peut-être la méthode par aspiration qui sera mal vécue, et pour une autre, ce sera l'IVG médicamenteuse. Il faut vraiment que les personnes s'approprient cette décision et ce choix. Et je pense que si on le vit mal, c'est aussi lié au fait que souvent, on les culpabilise et y a un tabou, quoi. Donc voilà, et j'avais envie de redire aussi par rapport au droit que même par rapport au coût, quand on n'a pas de sécurité sociale, il y a toujours possibilité d'obtenir une IVG. Donc soit vous adressez au planning ou à l'assistante sociale qu'il y a à l'hôpital. Les femmes étrangères ont accès à l'IVG même si elles n'ont pas de CMU. Enfin, j'avais envie de reposer aussi des choses comme ça, quoi. Et sur le choix de la méthode, voilà, quoi. Enfin, le souci, c'est toujours qu'il y a des grands délais d'attente et du coup, le choix de la méthode, il est restreint. Ce qui est...
Ouais, tout à fait.
Dommage. Voilà.
Ouais. Et alors, ce samedi 15 janvier, je fais une transition pas très fine, mais voilà, il y avait aussi une manifestation à Grenoble qui, au début, en fait, elle devait avoir lieu le 22 parce que, pour pas interférer en même temps que celle de Paris et tout. Et en fait, il se trouvait qu'il y avait un rassemblement de personnes pro-vie, ou je préfère dire anti-IVG parce que pro-vie, à un moment donné, ça veut rien dire pour moi, qui appelait à se rassembler pour prier à place Félix Poula. Et donc, Donc il y a eu un contre-rassemblement et qui a rassemblé à peu près 200 personnes. Il y a aussi, enfin, ces personnes c'était assez diversifié, je sais pas, des, enfin, quand même beaucoup de femmes, heureusement, mais des âges différents, des origines sociales différentes, enfin, vraiment c'était assez chouette et il y a eu, enfin, pas mal de slogans rigolos, des chansons, beaucoup de chansons détournées et tout. Et donc en fait, enfin c'était, je sais plus, les anti-IVG, ils étaient quand même moins nombreux.
Ils devaient être au plus 30.
Ouais, une trentaine. Et ce qui était assez effrayant, je trouve, il y avait beaucoup d'enfants et qui étaient aussi, enfin, qui tenaient les pancartes où il y avait marqué des choses comme l'embryon est un être humain, si tu veux la paix, défends la vie. Alors ça,
c'était vraiment fou ce truc que c'était des enfants ou des jeunes, et aussi notamment des jeunes adolescentes et adolescents qui étaient mis en avant, et les adultes étaient plutôt derrière parmi les anti-avortements, et vraiment ces enfants qui tenaient ces pancartes sur le haut du parvis de l'église, c'était assez...
Ouais, tout ça aussi dans une logique en fait de parler des survivants, et il y a une personne en fait qui a tenté un discours à la mémoire des 7 millions de victimes depuis la légalisation de l'avortement, mais qui n'a pas pu se faire entendre parce qu'en face il y avait des cris, des sifflements, des chansons et tout ça, et du coup finalement son discours n'a pas pu vraiment avoir lieu. Mais c'est quand même vraiment une logique assez hallucinante de parler des survivants et de voilà, de mettre en avant des gamins qui, enfin, ouais, moi ça m'a assez effrayé. Et donc globalement cette manifestation elle était plutôt positive, sauf que à la fin il y a eu quand même un petit souci avec la police, alors que la manif elle semblait finie en fait. Et tout le monde se retirait plus ou moins et tout ça, ben, comme c'est à la fin des manifs. Et ben, en fait, la police a essayé d'arrêter une personne. Ils ciblaient précisément une personne. Et au bout de plusieurs tentatives, avant, il y avait des manifestants qui s'interposaient, mais au bout d'un moment, c'était plus possible. Et du coup, cette personne a été arrêtée et a été gardée à l'hôtel de police. Je sais plus, 2 ou 3 heures, mais finalement, en fait, ils n'ont rien pu lui... Enfin, ils n'ont pas pu l'accuser, et donc elle a été libérée.
Mais le fait qu'il y ait comme ça un peu partout en France et qu'il y ait eu ce truc des anti-avortements ce jour-là, et ils en ont fait un peu partout en France, là, notamment ces derniers mois, justement, parce que c'était les 30 ans, alors vraiment, c'était pour eux... Et que ça prend quand même vachement d'ampleur et tout, et c'est vraiment quelque chose de dangereux, je veux dire, c'est pas juste quelques individus là qui prient, parce que vraiment c'est des lobbies qui ont du pouvoir. Alors peut-être en France ils en ont moins que par exemple aux États-Unis, mais ils en ont quand même, et on peut le voir parce qu'il y a, enfin oui, il y a des avancées dans la loi, mais il y a aussi des reculs, ou enfin j'en sais rien, en tout cas des choses qui mettent en danger la loi. Et peut-être j'avais envie de parler de l'amendement Garot. Peut-être il y en a une de vous qui peut...
Ouais. Bah, du coup, je vais parler. C'est vrai qu'au niveau des anti-choix, donc des anti-IVG, c'est vrai qu'ils ont un peu changé de stratégie pendant tout un temps, notamment en France. Ils allaient s'enchaîner au centre IVG. Et c'est vrai que là, leur moyen d'action s'est un peu transformé. Et c'est plutôt des lobbying, en fait, qui vont faire pression, qui vont faire du lobbying, donc pas forcément pression, mais qui vont faire du lobbying auprès des parlementaires, que ce soit au niveau de la Cour européenne, que ce soit au niveau du Parlement en France. Et voilà, donc il y a eu notamment l'amendement Garot. Donc c'est un député de l'UMP, Garot, qui, dans le cadre des lois Perben, donc c'était en 2003, a voulu faire passer un nouveau délit qui aurait été l'interruption involontaire de grossesse. Donc pour toute interruption de grossesse provoquée par une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou un manquement à l'obligation de sécurité ou de prudence. Ça veut dire que par exemple une personne qui provoquait un accident Et que dans cet accident, il y a une femme enceinte qui mourait, on pouvait l'inculper pour double homicide involontaire. En fait, le risque, c'était ce que veulent par là faire les anti-choix, les anti-IVG, c'est en fait de donner un statut juridique de personne à l'embryon, ce qui ferait que ça remettrait en cause ben, simplement le droit à l'avortement en France. Et on voit aux États-Unis, c'est la même stratégie qui est utilisée. Donc en France, l'amendement Garot n'est pas passé dans le cadre de la loi Perben. Garot avait déjà fait une tentative autour des lois de lutte contre la violence routière. Ce n'était pas passé non plus. C'est vrai qu'aux États-Unis, par contre, eux, en avril 2004, il y a une loi du même ordre qui est passée. Et donc voilà, ça remet complètement en cause le droit à l'IVG aux États-Unis. Voilà. Voilà, il y a eu, depuis que Bush est au pouvoir, même aux États-Unis, pareil, ils ont mis en place une loi qui interdisait une méthode d'avortement. Donc il y avait certains avortements qui ne pouvaient plus se faire. Voilà, donc ça a été déclaré inconstitutionnel par certaines cours fédérales, mais pas partout. Donc il y a vraiment un recul. Voilà, au niveau des États-Unis aussi, ils ne financent plus les programmes internationaux où dedans, y a des actions autour de l'avortement. Tout ce qui est autour de l'éducation à la sexualité aux États-Unis, on parle d'abstinence, point. Et c'est fait par des œuvres confessionnelles, par des cathos. Enfin voilà, donc c'est quand même assez présent aussi bien au niveau européen et des États-Unis et au niveau international. De toute façon, toutes les religions se rassemblent pas mal. Des fois, on nous parle de cathos contre musulmans, mais en tout cas, sur la question du recul des droits des femmes et sur la question de l'avortement, ils s'entendent très très bien. Voilà, un peu.
Ouais, et même, enfin, un peu ce qui se passe aux États-Unis, parce que même pour sa réélection, en fait, Bush, il annonçait qu'il voulait introduire une nouvelle loi qui punirait avec la peine de mort, en fait, des personnes qui pratiquent des avortements clandestins, ce qui est vraiment, alors là, enfin. Enfin, un coup énorme aussi contre la liberté d'avorter pour les femmes. Et aux États-Unis, la situation, elle montre assez bien ce truc, comment à un moment donné, on peut avoir certains acquis, mais aussi les perdre à nouveau, et qu'il faut vraiment rester vigilant là-dessus. Mais on va parler un peu plus peut-être des anti-IVG, aussi de leurs faux arguments, disons, après une pause musicale.
Eh bien, justement, en parlant des États-Unis, on va écouter un morceau qui critique justement la politique gouvernementale américaine en matière d'avortement. Et donc, c'est un morceau d'Arum Skarum, donc un groupe de Gwyn féministes de la scène alternative américaine. Et ce morceau, qui s'appelle « You Can't Stop Me », donc « Vous ne pouvez pas m'arrêter », critique le fait que les gouvernements fassent des lois qui restreignent le libre choix des femmes à disposer de leur corps. We'll be right back.
Ben, vous êtes toujours sur Dégenré, l'émission féministe sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Et donc, aujourd'hui, on parle de l'IVG et tout de suite là, plutôt des opposants à l'IVG en France. Et par exemple, et ben, une personne dont on entend malheureusement assez régulièrement par rapport à l'avortement, mais aussi à d'autres trucs sur le PACS, elle s'est beaucoup exprimée et tout, et ben, c'est Christine Boutin, en fait. On entend souvent parler d'elle. Et là, en fait, elle vient de déposer à l'Assemblée nationale une proposition d'une loi constitutionnelle tendant à favoriser l'aide aux femmes enceintes en difficulté. Enfin, son objet est de considérer le drame personnel et collectif que constitue chaque interruption de grossesse. Alors, c'est vraiment un retournement où l'IVG, en fait, n'est plus un droit, mais devient un drame qu'il faut absolument prévenir et tout. Et en fait, elle parle vraiment des conséquences psychologiques pour la femme qui subit l'avortement et tout ça, alors que, déjà, moi, je le tournerais vraiment dans un sens positif, que c'est une femme qui peut choisir ça, et ce qui ne veut pas dire que c'est toujours facile ou agréable, ou je sais pas, mais il y a clairement aussi des études qui démontrent que l'avortement et ses conséquences psychologiques dépendent beaucoup du degré de culpabilité lié à l'environnement de la femme. Et ça veut dire que, par exemple, une femme dans un environnement catholique supportera plus mal un avortement qu'une femme vivant dans un milieu sécularisé ou dans un milieu qui est plus dans la compréhension ou dans le respect de son choix que dans une culpabilisation. Et c'est vrai que la culpabilité, ou la culpabilisation par rapport à l'avortement, c'est complètement d'actualité, quoi. Ce qu'on a entendu tout à l'heure sur les dysfonctionnements aussi, que c'est dévalorisé, moi je comprends pas, quoi, parfois de.
De toute façon, la Christine Boutin, elle prend les choses complètement à l'envers. Ce que je veux dire, c'est que plutôt que d'essayer de voir comment favoriser l'accueil de la femme enceinte pour qu'elle ne vive pas quoi que ce soit comme un drame ou j'en sais rien. Enfin, effectivement, c'est dur d'avorter en ce moment en France. Et c'est pas parce que l'avortement, c'est dur en soi, c'est juste parce que tout ce qu'il y a autour comme poids moral, comme poids social autour du fait d'avorter, autour du fait de tomber enceinte alors qu'on l'a pas voulu, que ce soit parce qu'on tombe enceinte parce qu'on a oublié sa pilule, parce que j'en sais rien, c'est pas toujours facile, et parce qu'on peut pas toujours tout maîtriser, c'est pas vrai, quoi, le risque zéro n'existe pas. Et tout ce poids moral qu'il y a aussi autour de ces trucs que, voilà, et ben ça fait qu'avorter, effectivement, c'est difficile. Mais du coup, elle prend tout à l'envers. Pour moi, effectivement, il faut améliorer les conditions d'avortement, mais il faut pas. C'est pas Christine Boutin, comme d'habitude, elle nous pond n'importe quoi, je suis énervée.
Ouais, moi j'avais juste envie de rajouter par rapport à l'avortement. De toute façon, en France par exemple, il y a une femme sur deux qui avorte, sachant qu'on a un peu introduit 35 ans où on est fertile et que des moments peut-être qu'on a envie de souffler, on a peut-être pas envie de prendre tout le temps un moyen de contraception, à des moments on change, et puis en soi faire l'amour avec quelqu'un, ça touche à plein de choses émotionnellement, au niveau du désir, ça peut toucher à plein de choses. Et on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, donc l'avortement, il existera toujours, quelle que soit l'information qui est faite autour de la contraception, quelle que soit la manière dont on parle de la sexualité. Donc faut arrêter de dramatiser et de culpabiliser. Ce qui est surtout important, après, ce qui est important quand même, c'est de dire que c'est vrai qu'on est dans une société où parler de sexualité simplement, que ce soit pas d'une manière médicale ou du côté du porno, en fait, dans l'espace public, on en parle rarement autrement, de manière simple. Il y a très peu d'infos, très peu de discussions dans l'espace public autour de la sexualité. Et voilà, peut-être que ça serait une avancée pour les femmes d'en parler plus, quoi, notamment. Enfin, voilà.
Ouais, par rapport à cette question de la culpabilisation qui va malheureusement souvent avec l'avortement, et ben tout à l'heure dans un des témoignages, la fille qui raconte que son médecin lui a pratiquement imposé le choix de de l'IVG médicamenteuse et que et ça avec une argumentation que psychologiquement c'était mieux de voir quoi ce qui se passe que le fœtus et ben c'est un je sais plus comment elle dit un gros caillou et enfin juste c'est vraiment moi je trouve ça hallucinant c'est vraiment ce truc de mais faut bien que tu aies conscience de ce que tu fais que là genre enfin tu même si c'est pas dit comme ça mais c'est quand même ce truc là tu tues une vie qui était en train de naître dans toi quoi enfin et moi je trouve ça vraiment hallucinant enfin ce témoignage là m'a beaucoup choqué quoi enfin.
Mais j'ai l'impression qu'on pourrait en rajouter des tonnes des histoires qu'on a entendues qu'on a vécues de copines c'est clair que l'avortement tel qu'il est pratiqué il est pas moi l'impression que j'ai c'est que c'est pas dans un truc de rendre ça facile c'est vraiment il faut quand même avoir conscience que c'est pas un acte anodin que c'est pas n'importe quoi que du coup on doit le sentir passer quoi enfin moi des copines qui ont avorté plusieurs fois et qui plus leur nombre d'avortements était grand et ben plus les médecins ils étaient désagréables quoi en gros ça va ça suffit deux avortements ça suffit au troisième l'anesthésie elle va être un peu moins enfin vraiment des vraies histoires quoi qui montrent bien tout le poids qu'il y a là-dessus et cette non volonté qu'il y a de rendre l'avortement comme un acte enfin parce que concrètement, c'est pas un acte au niveau médical plus difficile à vivre physiquement que, je sais pas, une ablation d'ovaire, quoi. Enfin, c'est pas plus douloureux, pas plus difficile qu'un autre acte médical, mais c'est rendu, c'est montré comme quelque chose de vraiment difficile psychologiquement, de vraiment. Alors que médicalement parlant, ça a pas vraiment de sens, il me semble, enfin, par rapport à une autre opération, enfin, je sais pas, moi, une appendicite ou.
Ouais, bah c'est clair qu'il y a dans l'enquête on le voyait bien et puis je voulais dire aussi que dans toutes les statistiques parce que les IVG sont comptabilisées parce qu'à chaque fois normalement qu'il y a une IVG dans un établissement il y a une fiche qui est faite et les femmes qui en sont à leur plus du premier avortement sont appelées les récidivistes par exemple.
Donc, ça c'est hyper révélateur.
Voilà, c'est tout à fait révélateur de comment. Comment de toute la culpabilité qu'on met autour de cet acte quoi.
Moi un autre point aussi que je trouve assez hallucinant c'est que quand même un enfant enfin aucune femme fait un enfant tout seul enfin ou tombe enceinte toute seule plutôt et que toute cette culpabilisation elle est uniquement tournée vers les femmes quoi parce que les hommes qui à un moment donné aussi n'ont pas je sais pas, n'ont pas été assez responsables d'un point de vue sur la contraception ou j'en sais rien, mais en tout cas sont co-responsables de cette situation-là, et ben ils sont nulle part, ils sont pas visés en fait, et ça aussi c'est vraiment, vraiment pas anodin quoi, enfin.
Ouais, peut-être. Je voulais juste revenir peut-être à ce qu'on disait sur l'IVG en soi, en tant qu'acte médical, c'est pas un acte compliqué, c'est simple. Mais peut-être après sur le vécu de la personne, c'est vrai que peut-être autour de cet acte d'IVG, du choix de l'IVG, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des choses complexes qui peuvent se jouer pour la personne, dans le sens où ça a à voir avec son désir d'enfant ou pas, ce qui se joue dans la relation. Donc c'est pas forcément toujours quelque chose d'anodin. En tout cas, il y a plein de choses qui se jouent autour, et en tout cas, ce qu'il faut surtout c'est pouvoir avoir des lieux où les personnes puissent venir en parler sans qu'il y ait de jugement et de leçons de morale quoi enfin et peut-être par rapport à ce que tu disais sur la co-responsabilité des garçons c'est vrai que peut-être pour en venir un peu à qu'est-ce qui s'est joué pourquoi il y a eu autant de résistance sur l'accès à la contraception l'accès à l'avortement pour les femmes c'est que moi, il me semble que, à quelque part, ça remettait en cause aussi l'appropriation que le groupe des hommes avait du groupe des femmes, dans le sens où, à l'époque où il n'y avait pas de moyens de contraception et pas l'avortement, les femmes, elles étaient régulièrement enceintes, ou alors elles essayaient d'avorter. Donc elles mettaient aussi en jeu leur vie, ou alors elles étaient toujours en train d'élever des enfants. Et c'est vrai que la contraception et l'avortement, ça a quand même permis aux femmes de maîtriser la procréation, et aussi ça leur a permis d'accéder au monde du travail et donc à un salaire, et donc d'être indépendante financièrement, et donc de ne plus être dépendante du groupe des hommes. Et je crois que derrière tout ça, c'est vraiment ça qui joue, quoi. Et pareil sur l'accès au plaisir aussi, parce que c'est vrai que c'était la femme qui supportait la peur d'être enceinte, parce que le gars pouvait se barrer, enfin voilà, lui il avait pris du plaisir, et voilà, il se posait même pas la question de la femme qui risquait d'être enceinte. En tout cas, dans des histoires, c'était dans des situations de vie, ça a été ça. Et pour l'accès au plaisir des femmes, contraception et avortement, c'est vraiment une grande avancée. Enfin, elle est plus objet du plaisir de l'homme, mais elle-même peut penser enfin au plaisir et pas toujours être dans la peur, quoi. Enfin, donc voilà.
Moi, je voulais juste préciser quand tout à l'heure je parlais du côté anodin, c'était pas pour dire que c'est forcément anodin, hein, c'était vraiment pour questionner ce rapport à cet acte-là, hein, parce que j'ai complètement conscience que ça peut être un acte super difficile dans plein de situations, vraiment je tenais à préciser.
E si mette anche lo smalto, con cura si trucca le due occhi, lunghi capelli si treccia belli.
La première fois que je suis tombée enceinte, j'avais un retard de règles. Je savais que j'avais pas les règles, j'étais bien contente de pas les avoir, mais j'ai pas pensé que j'étais enceinte. Hein. Pas du tout. C'est vraiment quand j'ai commencé à avoir mal au sein, etc., que je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je serai enceinte? Ah là là, et là, ça a été l'horreur, l'horreur. C'était, oh là là. J'ai pas osé en parler à ma mère. Donc, j'en ai parlé à ma cousine, qui l'a dit à ma mère. Ma mère m'a traité de tout, de tout, de tout, hein, de salope, de putain, de... J'ai eu droit à tout, ça a été l'horreur. Alors, bon, évidemment, mon copain le savait, ça a été le premier à le savoir. Donc, il n'osait pas le dire à ses parents, il fallait qu'il les prépare, etc. Et ma mère a déboulé chez lui, annoncé donc à ses parents... qu'il m'avait mise enceinte, etc. Ça a été le scandale, ça a été vraiment horrible. Quels sont les motifs de ma mère pour pousser un tel cri, hein? Je sais pas. Hein? Pourtant, bon, moi je considérais que ce sont des choses qui peuvent vraiment arriver. Hein? C'est des trucs qui... Mais je sais pas, elle m'a vraiment jugée irresponsable et inconsciente. Hein? Ça a été vécu comme un drame. Comme un drame. Et mon copain m'a même proposé de le garder. Hein, bon, j'avais 17 ans, il avait 18 ans. Bon, sur le moment, ça m'a paru vraiment fou, quoi, d'essayer de garder un enfant sans avoir de boulot, de quoi. Il me dit, viens, on habite chez mes parents. Moi, ça me paraissait marrant. Vraiment impensable, quoi, de faire... J'envisageais ma vie avec lui, on allait se marier, on allait avoir des enfants, mais ce n'était pas pour maintenant. Il fallait qu'on finisse les études, qu'on ait un métier, quelque chose. Mais là, c'était vraiment trop tôt, ça tombait trop tôt. Ça, pour moi, ça allait arriver, mais il ne fallait pas que ça arrive maintenant. Quoi. Je ne peux pas dire que j'avais envie, hein. Je ne peux pas dire que j'étais consciente d'avoir un enfant dans le ventre. Je ne peux pas dire que j'avais vraiment conscience de ce que ça pouvait vouloir dire. Hein. Vraiment. Hein. Je n'ai pas senti qu'il y avait une vie qui était en train de pousser comme ça. Je n'ai pas senti tout ça. Hein. Je ne peux pas l'affirmer, hein, franchement. Voilà. Je sentais une transformation de mon corps. Mais je n'avais pas cette notion donc, d'une vie qui était en train de naître, là, non. Non, ça, c'était plutôt comme... Comment dire, comme un accident, je l'ai pris comme un accident. Un accident de parcours qui devait fatalement arriver vu comment je gérais tout ça, quoi.
Vous écoutez Dégenré, l'émission féministe sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Et vous venez d'écouter une chanson des Reines Prochaines dont on ne connaît pas le titre mais qui est extraite de l'album Le Cœur en Beurre. Donc les Reines Prochaines, c'est un groupe suisse-allemand, un groupe de femmes, voilà. Et donc après on a écouté encore un témoignage d'une femme qui est assez intéressant justement quand elle parle de comment sa mère a réagi. C'est complètement hallucinant, enfin... se fait traiter tous les noms de salope et tout. On sent bien la stigmatisation qu'il y a derrière ce truc d'être tombée enceinte, quoi. Enfin, donc j'imagine qu'elle doit être jeune ou enfin...
Ouais, elle le dit, je crois, elle a 17 ans.
Ouais.
Et moi, une autre partie que moi je trouvais assez intéressant dans cette interview, c'était qu'elle explique qu'elle n'a pas du tout l'impression que là, il y a une vie qui est en train de pousser dans son utérus ou quoi, que ok, il y a des modifications un peu de son corps, mais qu'elle le ressent plus comme un accident parce que aussi c'est ça pour elle et moi ça me semble vraiment important d'insister sur ce côté le ressenti que des femmes, enfin que nous on peut avoir par rapport à des situations comme ça, ça dépend de beaucoup de choses, enfin du contexte dans lequel on vit, du rapport qu'on a à l'idée d'avoir ou pas un enfant, du contexte d'où vient aussi cette situation, si c'est dans une relation stable ou pas, quel âge on a, enfin j'en sais rien, de plein de choses et que je crois, enfin par exemple aussi ce qu'elle dit, je trouve que, enfin moi ça me fait penser à l'émission il y a deux semaines sur la maternité. En fait, c'est l'instinct maternel, et ben, il n'existe pas, quoi.
Mais c'est ça, c'est que ça démythifie complètement ce truc-là, parce que, enfin, cette idée qu'on le sentirait immédiatement quand on est enceinte, et cette vie en soi, ce serait tellement... Alors oui, hein, pourquoi pas, et certainement pour plein de femmes, c'est effectivement une réalité, mais là, elle, c'est bien la preuve que pas forcément, quoi. C'est pas parce qu'il y a un embryon qui est en train de grandir dans son ventre que direct on sent l'instinct maternel naître en nous. C'est un peu plus complexe que ça quand même, et c'est pas quelque chose d'automatique, c'est bien quelque chose de construit, de culturel, qui fait que, ben, effectivement, à certains moments de notre vie, ou toute notre vie, on n'en a pas envie, quoi.
Ouais, un autre aspect de cette interview, c'est aussi de montrer que, en fait, moi, quand je l'entends, j'ai vraiment l'impression que ce qui est problématique, c'est non pas tellement le fait d'être enceinte et du coup d'envisager un avortement et tout, mais c'est tout le contexte autour, c'est la réaction de la mère, le fait qu'elle va voir les parents du copain, enfin, c'est tout ce truc-là en fait qui, à un moment donné, en fait vraiment un grand problème et on fait une chose très dure à vivre. Et alors que la fille, elle a, enfin bon, peut-être c'est aussi quelques années après cette interview et tout ça, mais j'ai l'impression elle a à l'avortement même, elle a un rapport assez assez détendu, quoi, enfin, et tout, et ça me semble vraiment vraiment aussi intéressant, quoi, enfin, que le contexte, je pense, et cette culpabilisation venant de l'extérieur, c'est enfin ça joue énormément sur comment on peut vivre une telle situation.
Et on voulait aussi, dans l'idée d'approfondir aussi, c'est que moi, l'idée qui me vient, c'est aussi pourquoi, aussi dans des réflexions féministes, c'est si important à un moment donné de réfléchir à l'avortement et à la contraception, parce que pour moi, c'est complètement lié, l'un va pas sans l'autre, enfin, pour les raisons qu'on a expliquées, qu'il n'y a pas de risque zéro, etc., dans les sexualités. C'est pas si... Oui, il y a le libre choix des femmes, il y a... toutes ces histoires-là. Et il y a aussi cette idée que, moi, j'ai l'impression que, ce qui fait, dans une vision naturaliste de cette différence de sexe, les hommes, les femmes, ce qui fait une des différences dont on parle immédiatement, c'est quoi la différence entre un homme et une femme ? Une femme peut avoir des enfants. C'est souvent la première réponse qui vient. Et le fait d'avoir, justement, cette liberté de choix et cette possibilité de prendre une contraception, c'est-à-dire de ne plus être féconde, et aussi de pouvoir avorter, c'est-à-dire pouvoir faire le choix de ne pas être féconde, enfin, en tout cas de ne pas reproduire, et ben, je trouve qu'à un moment donné, ça casse avec cette identité de sexe femme reproductrice. Et je trouve ça intéressant aussi dans la vision qu'on a de la différence des sexes. Et c'est aussi pour ça, pour moi, que c'est quelque chose d'important dans une réflexion féministe, de réfléchir à ça, c'est quoi la représentation de l'IVG, de la contraception.
Ouais, c'est clair que l'avortement, ça représente vraiment une rupture en fait avec ces cases de genre, enfin, complètement naturalisant. Ou par exemple, c'est aussi tout le rapport à la sexualité en fait qui s'en trouve changé. Enfin, moi vraiment, en entendant l'interview qui parle des années 60 là au début. Et ben, je me demande vraiment, mais comment cette femme elle a pu vivre en fait sa sexualité, enfin, ou est-ce que on pouvait dire que c'était sa sexualité, enfin, parce que à un moment donné, si tous les quatre mois on se retrouve ensemble, enfin, moi je pense que ça me couperait toute envie et tout, et du coup cette possibilité, à la fois par la contraception, mais aussi parce que l'avortement est possible en fait, de à un moment donné vraiment lâcher en fait sur ses peurs de tomber enceinte et tout, et ben j'ai l'impression que c'est vraiment une condition hyper importante pour ouvrir en fait un accès à son propre plaisir, quoi, dans ses rapports sexuels, dans toutes les sexualités possibles.
Moi, ça me rappelle un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, alors qui malheureusement, je pense qu'il n'est plus édité maintenant. C'est un livre qui, je pense, a été édité dans les années 70, justement au moment de la légalisation de l'avortement. Et c'est une femme, justement, qui raconte comment elle a vécu plein d'avortements clandestins, parce qu'elle tombait enceinte tout le temps, quoi, et que c'était horrible pour elle, parce qu'elle voulait pas plus de 3 enfants et tout dans son mariage. Et le titre du bouquin, c'est « Vivre avec la peur au ventre », et elle parle à fond de cette histoire, justement, que elle aimait bien ça, avoir du sexe, des relations sexuelles avec son mari au début de son mariage, mais qu'au bout de même pas un an, elle n'avait plus aucun plaisir, tellement elle était tout le temps flippée de juste de tomber enceinte vu qu'elle le voulait pas. Et enfin, c'est juste pour donner un exemple de plus que vraiment, c'est clair que pour pour pouvoir avoir une sexualité qui nous plaît et tout, il faut avoir effectivement les outils de pouvoir en avoir parlé, de connaître les choses, d'en avoir entendu parler, d'avoir des images positives de ça, mais aussi pour ne pas avoir cette peur de tomber enceinte tout le temps, quoi. Et c'est aussi ce dont on voulait parler, c'est que en lien avec cette lutte pour l'avortement et pour le libre accès aux méthodes de contraception, il y a aussi fondamentalement cette nécessité de parler de sexualité et toujours, enfin très tôt, très, enfin dès que, et pas comme quelque chose de normalisant, mais enfin, j'en sais rien. Toi, tu t'animes des ateliers de discussion ou...
Oui, complètement, c'est ce que je fais essentiellement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir parler de sexualité de manière simple, sans donner quelque chose de normatif, quoi. C'est vrai que, par exemple, il arrive de discuter la pornographie, où ça renvoie à une sexualité, en fait, où la sexualité, ce serait que la pénétration vaginale, ou autre, d'ailleurs, que la pénétration. Et voilà, l'idée, c'est un peu d'échanger autour de ça, et qu'il y a d'autres formes de sexualité, et que c'est à chacun à construire la sienne, quoi, que tous on peut prendre du plaisir différemment, et c'est à chacun à trouver ça pour soi, quoi. Et moi, j'avais envie de dire, par rapport à cette histoire d'avortement et de contraception sur lesquelles il y a la culpabilité, tout ça, c'est vraiment... j'ai l'impression, derrière, c'est toujours cette histoire, en tout cas pour les femmes, d'accès au plaisir et à une sexualité épanouissante. Et malheureusement, encore actuellement, en tout cas, notamment comme on socialise les filles, je trouve pas qu'on les socialise à avoir une sexualité épanouissante. Il y a complètement des différences de comment on éduque garçons et filles, quoi. Par exemple, au moment de la puberté, quand les filles ont leurs règles, le plus souvent, on leur signifie attention, tu risques d'être enceinte. Donc la sexualité, c'est du côté du risque. Et pas du tout du plaisir. Et pour le garçon, quand il a ses premières éjaculations, on lui signifie pas qu'il risque d'être père, mais on place plutôt le discours du côté du plaisir, et qu'en fin de compte, il peut faire un peu ce qu'il veut, quoi. Voilà.
Et on va écouter un morceau de Fœtus Party, qui est un groupe de Tours, et où la chanteuse revendique le droit d'avoir du plaisir avec qui elle veut, comme elle veut, quand elle le veut.
La puissance industrielle de Brandt vous offre une machine complète à bien laver à un prix sans concurrence, 59 500 francs. Et vous avez la qualité Brandt.
Hey, Playboy!
toujours l'émission Dégenrée, donc sur Kaleidoscope 97 FM. Donc là, l'émission se termine. Donc on a parlé de plein de choses. Bon, c'est toujours pareil, on a envie de parler de toujours plus de choses.
Il y aura encore vachement de choses à dire, mais bon, c'est les 1h30, ça passe très vite.
Je pense que l'essentiel a été dit. C'est vraiment, j'espère, c'est l'idée que, l'avortement, il faut toujours lutter pour qu'il ne soit pas à nouveau interdit. Donc là, il est autorisé. Et qu'il existe des structures et des personnes qui militent pour et qui travaillent autour de ces questions-là pour que les avortements se passent le mieux possible. Et que donc on a parlé de la culpabilisation, c'est un truc important qu'il ne faut pas culpabiliser et qu'il faut travailler autour de ce fait-là, que ça ne sert à rien de tout ce truc moral autour. Alors on voulait peut-être rappeler du coup quand même les numéros, le contact.
Ouais, alors il y a un numéro, donc c'est plus une antenne téléphonique, c'est le 0810 810 714, donc 0810 810 714, et autrement il y a le numéro de téléphone du planning familial de Grenoble, qu'on trouve aussi sur le bottin, c'est le 04 76 87 94 61. 04 76 87 94 61, et voilà, faut surtout pas hésiter à appeler, à passer, voilà.
Et il me semble aussi que vous répertoriez un peu les dysfonctionnements qui peuvent arriver malheureusement trop souvent.
Du coup, même par exemple, quand vous allez à un centre IVG ou même par rapport à des problèmes de pilule le lendemain dans des pharmacies, il faut vraiment nous faire passer l'information au niveau du planning familial, parce qu'après nous, ça nous permet d'avoir des infos, des choses concrètes et d'aller défendre nos droits, que ce soit auprès des centres IVG ou des pharmacies. Voilà, donc vraiment nous faire passer l'info au niveau des problèmes que vous avez rencontrés dans les centres IVG ou autres. Voilà.
Et même ne pas hésiter à appeler aussi le planning si jamais il y a un souci par rapport au délai, on l'a dit tout à l'heure, et le répéter.
Voilà. Quand vous êtes hors délai, appelez-nous, il y a des possibilités pour pouvoir avorter. Voilà.
Et ben donc maintenant on va peut-être faire quelques infos locales super rapidement. Alors moi je voulais parler, on en a déjà parlé dans cette émission, et à Grenoble, donc parmi plusieurs squats qu'il y a en ce moment, il y en a un, c'est La Mordue, et c'est un squat féministe de femmes et de lesbiennes qui existe depuis maintenant quelques mois et qui malheureusement est menacé d'expulsion.
Imminente,
puisque la juge ne nous a donné aucun délai et donc l'huissier est passé, tout ça. La police peut venir expulser d'un jour à l'autre. Alors, et c'est donc le préfet qui a donné qui a autorisé cette expulsion. Et alors, il est toujours possible pour protester contre cette expulsion, parce que toutes les expulsions sont critiquables. Mais alors là, notamment, on est en plein hiver, donc pour au moins demander la trêve d'hiver,
qui donnerait au moins un délai jusqu'au 15 mars.
Donc vous pouvez apostropher le préfet, lui écrire, téléphoner à la préfecture pour dire que c'est pas admissible des expulsions, n'importe quelle expulsion en plein hiver. Alors pour ça, je peux vous donner le numéro de la préfecture où vous pouvez appeler pour dire que vous êtes choqué et que vraiment vous êtes contre cette expulsion, que vous trouvez ça inadmissible. C'est le 04 76 60 33 47. Ou alors le 04 76 66 32 08. Et il y a même un numéro de fax, parce que les fax aussi c'est bien, c'est le 04 76 44 68 00. Et vous pouvez aussi écrire des lettres à la préfecture, et c'est place de Verdun, préfecture de l'Isère, et voilà.
Et sinon, en fait, une autre annonce, en fait, du 18 au 25 février auront lieu à Grenoble, aura lieu, la semaine contre l'homophobie. Et il y aura plein de choses. Il y a un forum des associations, il y aura Marie-Hélène Boursier qui va venir. Il y a aussi une exposition que vous allez pouvoir voir à partir du 18 au Chapitonome, qui est Traverse des 400 couverts. Mais si vous voulez savoir plus sur le programme, il y a un site internet qui s'appelle phobofolie.org, où donc c'est possible de trouver le programme en entier, ou sinon, ça sera annoncé, j'imagine, dans le petit bulletin.
Et sinon,
renseignez-vous si ça vous intéresse.
N'hésitez pas à appeler les différentes associations d'homosexuels, gays, lesbiennes à Grenoble, donc AGE Égal ou Les Voix d'Elle.
Et juste pour rappeler, comme toujours, vous pouvez nous contacter aussi si vous avez envie de nous faire des retours sur nos émissions ou si vous avez des questions. On peut nous joindre par mail, c'est degenre avec deux E à la fin, at boom.org, boum.org. Et sinon, c'est possible aussi par voie postale à radio, enfin, donc dégenré à Radio Kaleidoscope, boîte postale 422 38018 Grenoble CEDEX 1.
Et donc, moi pour finir, je voulais vraiment remercier Rachel et Christelle d'être venues nous voir et participer à cette émission. Et donc, on se retrouve dans 15 jours avec une émission surprise et vous verrez bien. Bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée.
That's much too much for this kind of loving. Making love to you is a beautiful thing to do. Making love with you is a wonderful thing for me. In the moonlight, haven't seen the backseat of my Cadillac. Let me take you.